Alors, pour ceux qui étaient là mardi dernier, je ne sais pas si vous vous en rappelez, interrogation de surprise, sortez une feuille, un stylo, non. Alors, je vous fais un bref récapitulatif. On s'était arrêté sur quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais je pense qu'il faut en parler parce que la Bible en parle. On s'était arrêté sur la perdition, le fait d'être perdu. Voyez, Jésus qui dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Voilà. Et ces choses-là ne sont pas là pour nous faire peur, mais il faut quand même qu'on soit au clair. Il y a tellement de gens qui savent pas que ces choses-là, ce sont des réalités. Et je crois que c'est important. Il y a ce délit qu'on appelle aujourd'hui non-assistance de personnes en danger. Mais quelque part, quand on y réfléchit, on pourrait dire que c'est un peu ça. Parce que l'éternité, c'est une réalité. Un jour, il nous faudra partir. Le tout de savoir où est-ce qu'on va. Voilà. Et quelque part, Jésus a payé pour qu'on soit sauvé, pas pour qu'on soit perdu. Et quelque part, il faut que les gens sachent. Hein. Je ne voudrais pas être accusé de non-assistance à personne en danger. C'est pour ça que c'est important, comme on l'a vu mardi dernier, d'aborder un petit peu ce sujet-là. Je ne vais pas y revenir. Ce soir, je voudrais aborder l'autre versant, parce que c'est important, mais et même pour nous les chrétiens, peut-être de nous rappeler ça. Je voudrais vous parler de la joie d'être sauvé. La joie d'être sauvé. Est-ce que nous avons cette joie-là, toujours, d'être sauvés, hein? Je le dis parfois avec un peu d'humour, souriez, vous êtes sauvés. En tout cas, j'espère. Hein? Voilà, hein, je pose la question ce soir, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu sais où tu vas? Hein? Non pas qu'on est omnibulé que par ça, qu'on pense qu'à ça toute la journée du matin au soir et du soir au matin, mais je crois que c'est important de se poser la question, est-ce que je suis sauvé? Et si c'est le cas, ben, est-ce que j'ai cette joie d'être sauvé? Mais je ne sais pas si on réalise. Et le départ de Maggie, mais chaque fois que quelqu'un part dans l'éternité, moi ça m'interpelle et je me dis, mais est-ce qu'on réalise la joie qu'on a d'être sauvé? De savoir où on va? De savoir que si tout s'arrête ici-bas, nos yeux se réouvrent dans l'éternité. Est-ce qu'on mesure le privilège qui est le nôtre? Je pense que des fois, et je m'y mets dedans, on a tellement l'habitude de lire certains versets, comme par exemple, « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On a tellement l'habitude de le lire, on a tellement l'habitude de l'entendre, que parfois on n'y fait même plus attention. Et pourtant, la vie éternelle. Vous voyez? Je suis sûr que si ça se vendait en magasin, la vie éternelle, ça serait souvent en rupture de stock. Hein. Les gens, ils courraient pour y aller. Mais Jésus nous a acquis ça, à la croix. Hein. Et je crois que c'est important de réaliser que la joie d'être sauvé, c'est quelque chose à ne pas perdre. Vous savez, l'ennemi de notre âme, lui, ce qu'il veut, c'est essayer de voler ce que nous avons de plus précieux. La paix du cœur. Et il y a tellement de gens qui n'ont pas la paix du cœur. Et ça, si l'ennemi de notre âme peut nous le voler, il va pas se gêner. Mais la joie d'être sauvé, c'est pareil. D'ailleurs, vous rappelez que David, dans le psaume 51, va dire « Rends-moi la joie de ton salut ». Parce qu'on peut se la faire voler. Alors regardez, on va lire un premier texte. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 1er. Luc, chapitre 10, verset 1er. Il est dit ceci. « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. » On les connaît un peu moins, ceux-là. On connaît les 12, mais il y en avait d'autres, hein. 70 autres disciples, et les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alors on va sauter quelques versets, on va au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire cependant. » Je voudrais qu'on retienne ça ce soir. « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez, moi j'ai comme l'impression que le message que le Seigneur veut faire passer ce jour-là, mais aussi à nous ce soir, à ces 70 disciples, c'est comme s'il leur disait « Écoutez les gars, vous êtes heureux, ils reviennent. » Moi je les imagine, hein, ils reviennent, ils sont emballés. Parce que les démons leur sont soumis, ils viennent de faire des expériences avec Dieu, ils viennent de voir la gloire de Dieu, ils viennent de voir des gens délivrés, ils viennent de voir des gens bénis par Dieu. Et moi je comprends, quand on voit ça, c'est en balance, c'est enthousiasmant. Alors ils rentrent, ils sont, waouh, ils sont, vous voyez, super. Et le Seigneur leur dit, écoutez, tout ça c'est super, c'est bien, mais la vraie joie elle n'est pas là. La vraie joie, Et il leur dit, verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » C'est ça la vraie joie. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est vrai que dans la vie avec Dieu, il y a des joies. Il y a des joies, merci Seigneur. Quand on prie pour quelque chose et que Dieu nous exauce, on est content. Vous avez prié pour avoir un travail, et puis Dieu a ouvert une porte pour un travail, moi je dis gloire à Dieu, ça nous encourage, ça nous fortifie. Quand on prie quelque part pour que Dieu intervienne dans une situation, et puis qu'on voit la main de Dieu, on est heureux. Quand Dieu baptise du Saint-Esprit, on est heureux. Moi, je ne sais pas vous, mais je me rappelle le jour où j'étais rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, mais il m'a fallu 2 jours pour redescendre. Tellement c'était waouh, c'était super, t'es plein de joie. Vous voyez, tout ça, c'est super. Vous voyez, il y a des joies dans la marche avec Dieu. Mais la plus grande joie, c'est d'être sauvé. C'est de ce que savoir que notre nom est écrit dans les cieux. Hein, il y a tout un tas de registres ici-bas sur terre. Hein, on est écrit dans plein de registres, même dans des registres dont on ne sait même pas d'ailleurs. Vous voyez. Mais s'il y en a un dans lequel il faut que notre nom y soit, c'est dans le livre de vie. Hein. D'ailleurs, mardi dernier, on s'est arrêté sur ce verset que je vous cite, Apocalypse 20, chapitre 20, verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Voyez. Donc quand le Seigneur leur dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux », mais il leur dit « Mais c'est ça la vraie joie. » Voyez, c'est ça la vraie joie. Et je voudrais tellement que ce soir on puisse réaliser, dire « Mais Seigneur, c'est vrai qu'il y a les affaires de la vie, c'est vrai qu'il y a tout ce qui gravite autour de nous. On n'est pas des morceaux de bois, on est les pieds sur terre, on n'est pas des illuminés, on est d'accord avec ça. » Mais je me dis « Seigneur, mais quand je pense que je suis sauvé, quand je pense que tu nous as sauvés, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, je me dis, mais Seigneur, est-ce que parfois on n'aurait pas perdu un peu cette joie du salut? De savoir qu'un jour nos yeux verront Jésus, et puis de savoir aussi, enfin je sais pas, j'espère que vous lisez de temps en temps, j'en parlerai un petit peu demain, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a des gens qui ça fait peur l'Apocalypse. On dit, ouh, c'est vrai que le mot apocalypse, il est souvent associé à catastrophe, cataclysme, etc. Moi, quand je lis le livre de l'Apocalypse dans la Bible, je me rends compte qu'il n'y a pas que ça. Et je me rends compte qu'il y a des choses extraordinaires. Quand il est question du ciel, le trône de Dieu, les 24 vieillards, les anges, les archanges, tout ce qui se passe. Quand vous lisez certains textes, vous vous dites, mais ça doit être mais fabuleux. Mais tout ça, c'est pour nous. Et tout ça, un jour, on y sera, on le touchera. On le verra, hein, quelque part, on verra Dieu face à face, hein, on le verra tel qu'il est, voyez, mais je me dis, mais ça nous dépasse, la joie d'être sauvé. Et quand vous prenez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y a des tas de textes qui mettent en évidence, qui mettent en avant cette joie d'être sauvé. Par exemple, alors on ne va pas le lire, mais rappelez-vous les 3 paraboles de Luc 15, le point commun des 3, hein, la brebis perdue, la pièce perdue, le fils retrouvé, le fils perdu. Mais le point commun de ces 3 paraboles, c'est quoi? C'est la joie à chaque fois qu'il y a de ce que, quelque part, ce qui était perdu est retrouvé. Et vous rappelez ce que dit Jésus, hein, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je ne sais pas si on réalise que chaque fois qu'un homme, une femme se tourne vers le Seigneur, confesse le nom de Jésus dans sa vie, réalise que sur la croix, Jésus est mort pour lui, qu'il l'accepte et qu'il le reçoit, mais dans le ciel, il y a une joie. Mais dans le ciel, il y a une... Je ne sais pas si on le réalise que hein, chaque fois qu'il y a entre guillemets un sauvé, mais dans le ciel, parce que Jésus a donné sa vie pour ça. Mais je ne sais pas si on le réalise. Regardez, j'ai noté ça aussi, psaume 32, verset 1er. Bon, alors bien sûr, il y a un contexte un peu particulier, mais je ne vais pas m'y arrêter, c'est un repentir de David. Mais regardez, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il est heureux, il est heureux. Et quand quelqu'un qui est heureux, il est dans la joie, vous voyez. Pourquoi? Parce que le péché est remis, parce que le péché, c'est ce qui nous empêche d'être sauvés. Et quand on se repent, mais quelque part, il y a une joie extraordinaire. Et c'est là que la joie du salut vient. Et ça, c'est des versets qu'on connaît par cœur, mais on est heureux ce soir, pour la plupart. Parce que le Seigneur a pardonné nos péchés. Je ne sais pas si on le réalise. Hein, d'avoir été lavé, pardonné de nos péchés, ce qui nous condamnait a été ôté, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on est heureux ce soir, je me dis. Bien sûr, il y a des choses qui nous attristent. Et ça, on est... Mais je ne veux pas me laisser voler cette joie. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Voyez, heureux. Et regardez, l'apôtre Pierre, lui... va parler aussi de ça, j'allais dire, d'une manière abondante. Il va dire des choses, c'est des textes qu'on connaît, mais quand on y réfléchit, quand on s'y arrête un peu plus posément, là, on se dit, tiens, c'est vrai, il y a des choses que j'ai oubliées. Regardez, 1 Pierre, chapitre 1er, 2 textes. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Alors regardez, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, on pourrait dire nous a transformés. Pourquoi faire ? Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et regardez, verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Regardez le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Tu vas me laisser ce verset. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voilà. Alors ici, quand il est question de cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, il est question là de ce qui nous attend dans le ciel. Il est question là de la pleine réalisation du salut pour nous. Chaque fois que quelqu'un qui a confessé Jésus dans sa vie, l'a reçu et a marché jusqu'au bout avec lui fidèlement de tout son cœur, ben chaque fois qu'il s'en va, il part prendre son héritage. Et il est dans la présence de Dieu, il a pris son héritage. Voyez ? Mais pour ceux qui sont pas encore partis, c'est quelque chose qui est là pour nous. Et Pierre dit, et c'est ça que je voudrais retenir, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Alors moi je pose la question, est-ce que ça fait notre joie ? Ben ouais, parce que c'est là ce qui fait notre... Seigneur, ce qui m'attend, c'est tellement beau. Et ce que j'aime ici, c'est l'équilibre de la parole. C'est là ce qui fait votre joie. Alors si ça s'arrêtait là, on pourrait se dire, ouais, d'accord. Mais moi j'aime la suite. Quoique, et c'est là qu'on voit l'équilibre. Quoique maintenant, ouais, parce que on est maintenant là, et ce qu'il faut vivre, il faut le vivre. Voyez, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous savez que c'est un impératif. Vous savez, dans la Bible, il y a des il le faut qui sont importants. Il faut que tu naisses de nouveau, par exemple. Voyez, mais puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Parce que, j'allais dire, dans le package de la marche avec Dieu, il n'y a pas les épreuves qui sont enlevées. Ça serait bien, hein, mais ça fait partie de la marche avec Dieu. Et parfois, c'est avec ça qu'on a un peu de mal. Je dis on et je m'y mets dedans. C'est avec ça qu'on a un peu de mal, parce qu'on se dit, mais Seigneur, quand même, on t'appartient. Vous voyez ? Mais Pierre dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Vous voyez ? Et c'est vrai qu'on est attristés, et c'est vrai qu'on est peinés. Alors encore plus cette semaine, mais c'est vrai qu'il y a des peines dans notre cœur. Et ce soir, peut-être qu'il y a des peines qui sont là. Et c'est une réalité. Et on ne peut pas les occulter, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On n'est pas désilluminés, on n'est pas des bouts de bois. On n'est pas sans émotion, on n'est pas sans sentiments. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Mais... au-delà de tout cela, Seigneur, ce qui fait ma joie, c'est que je sais que de toute manière, au bout du compte, ce qui m'attend là-haut, c'est tellement extraordinaire. Alors je sais que tu vas m'aider pour ce qui est en bas, tu vas m'aider pour le maintenant, tu vas m'aider. Mais Seigneur, je ne veux pas me laisser voler cette joie. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Moi, ça m'interpelle. Et puis regardez un petit peu plus loin, Pierre continue. On va sauter un verset, regardez, verset 8. En parlant de Jésus, il dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu ». Pour les gens, c'est de la folie, ça. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas aujourd'hui qu'on croit. Hein. Moi, j'ai toujours dit « Moi, je n'ai jamais vu l'électricité. Maintenant, mettez de l'eau dans la prise, vous allez voir que ça va vous faire mal. Hein. Vous allez le sentir. Voyez, ben, le Seigneur, c'est un peu pareil. Hein. Quand on met le doigt dans la prise de l'Évangile, il hein, y a quelque chose qui se passe. Mais ça, c'est pour le bon. Voyez. Mais regardez, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, et regardez, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La joie du salut, la joie d'être sauvé, c'est divin. C'est surnaturel. C'est pas un truc là. Moi, je suis pas un animateur. Hein, je pourrais vous dire allez, réjouissez-vous, allez. Mais j'y arriverai pas. Vous allez me regarder, vous allez vous dire il est fou celui-là. Il est fada. Mais c'est divin, c'est surnaturel. Quand on reçoit cette assurance du salut, ça s'explique pas d'ailleurs. Mais vous dites je sais que je suis sauvé, pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis plus spirituel, mais parce par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur me fait grâce, il me pardonne mes péchés, parce que je me repens. Mais c'est divin, c'est surnaturel. Une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Et moi ça m'interpelle. Et je comprends pourquoi l'ennemi de notre âme essaie de nous voler cette joie du salut. Parce que c'est divin, c'est surnaturel, c'est précieux. Et franchement, Et on en parle de temps en temps quand je vois parfois dans certains pays où les chrétiens sont persécutés, la joie qui est la leur, malgré ce qu'ils prennent, malgré ce qu'ils ramassent, hein, malgré ce qu'ils subissent, quand je vois certains qui sont prêts à faire des, qui font des kilomètres dans la forêt pour aller à des réunions, qui font des kilomètres à l'aller, des kilomètres au retour, qu'on est obligé de changer les endroits, les lieux de réunion, parce que sinon on risque de se faire persécuter. Quand je vois ce que certains chrétiens dans certains pays, hein, je ne vais pas en nommer, mais hein, toutes les nouvelles qu'on reçoit des chrétiens persécutés, dont on ne parle d'ailleurs jamais dans les informations, ça on ne vous en parlera jamais, hein, de tous ces croyants persécutés à cause du nom de Jésus, à cause de leur foi, quand je vois la joie qui est la leur, quand je vois l'enthousiasme qui est le leur, des fois je me dis que quelque part on a un peu perdu la joie du salut. Hein. Et quand je dis « oh », je m'y mets dedans. On a un petit peu perdu, quelque part on s'est laissé décontenancer et on m'a lancé la pierre à personne. Parce que qui peut dire que jamais à un moment donné il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on a un peu, perdu ça. Mais j'ai envie vraiment de dire « Seigneur, quand je réalise que tu m'as sauvé, réalise le salut de mon âme. Hein, » bon. Il n'y a peut-être pas des millions en banque, hein, mais dans le ciel, il y a un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Alléluia. Et ça, je veux le réaliser. Regardez, il y a un autre texte qui m'a touché. Là, c'est pareil, c'est des textes qu'on lit, qu'on connaît, mais j'ai dit, c'est vrai. Vous rappelez le geôlier, acte 16, acte chapitre 16. Vous rappelez ce geôlier qui est là, et puis il y a Paul et Silas qui sont dans la prison. En pleine nuit, ils prient, ils chantent les louanges de Dieu. Pourtant, ils ont ramassé. Hein. Ils ont ramassé, vous relirez. Hein. On les a roués de coups à cause de leur foi, parce que quelque part, à cause de cette femme pitonesse qui avait été libérée, vous rappelez, ils ont ramassé. Et puis, ils sont là, ils prient, chantent les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Et puis, il y a un tremblement de terre, vous rappelez, les portes des prisons s'ouvrent. Et vous rappelez que le geôlier, quand il voit ça, il pense que tout le monde est parti. Il va pour se suicider. Ah oui, parce qu'à l'époque, quand vous laissiez échapper les prisonniers, vous preniez la même peine que ceux que vous aviez laissés échapper. Donc pour lui, il valait mieux mourir. Et puis vous rappelez que Paul va dire « Te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Et puis la Bible, il y a tout un message là. La Bible nous dit qu'il va entrer tout précipitamment, qu'il va demander de la lumière. Vous savez, quand on demande à Dieu de nous éclairer, il nous montre. Si on est vrai avec Dieu, si on lui demande de nous éclairer, si on demande au Seigneur « Montre-moi », le Seigneur va montrer. Il est entré précipitamment, il a demandé de la lumière. Et puis là, il va se jeter au pied de Paul en disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Il a compris que c'était ça l'important. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Il ne dit pas « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir ?» Hein ? Non, non, « Qu'est-ce qu'il faut que je... » Il ne leur dit même pas « Mais qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils ne partent pas ?» Non, non, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... » Il comprend à ce moment-là qu'il n'est pas sauvé. Peut-être j'ouvre une parenthèse ce soir. Si peut-être tu réalises ou tu n'es pas encore sauvé, mais il faut faire quelque chose là. C'est important, c'est urgent. Hein. Cet homme, il a compris l'urgence du salut. Et rappelez ce que Paul va lui dire. Il va lui dire, tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors je veux quand même une petite parenthèse là-dessus, parce que je l'ai souvent entendu. Hein. C'est une parole qui est adressée au geôlier. Ça. C'est personnel. Parce que j'ai souvent entendu, oui, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Wow, attention. Si le Seigneur vous donne ce verset pour vous de manière personnelle, une conviction, amen. Maintenant, il faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Parce que ça s'adresse au geôlier. Maintenant, je répète, si mon frère, ma soeur, Dieu te donne cette parole pour toi, gloire à Dieu, garde-la. Mais là, dans le contexte, c'est personnel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et là, regardez, acte 16, verset 34, juste ce verset. Acte 16, regardez, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, écoutez bien, c'est ça, j'avais jamais un peu réfléchi là-dessus, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Il se réjouit avec sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. Hein. Dites-moi, là je nous pose la question à nous les croyants, est-ce qu'on se réjouit encore de ce qu'un jour on a cru en Dieu? Est-ce qu'on se réjouit encore? Oui. Amen, merci. Est-ce qu'on se réjouit encore? Mais franchement, parce que avec le temps qui passe, les années de marche avec Dieu, les années de conversion, les difficultés, ceci, cela, et on peut arriver à devenir ce que j'appelle des chrétiens raisonnables. Voyez, des chrétiens raisonnables, de raison. Mais bon, je suis sauvé. Voyez, ça a l'air de te faire plaisir. Hein, mais... lui, non, il se réjouit de ce qu'il avait cru en Dieu. Et je me dis, mais Seigneur, qu'on garde cette fraîcheur-là, cette fraîcheur de cette joie. Seigneur, mais je me pose souvent la question, mais où est-ce que je serais aujourd'hui si le Seigneur n'était pas venu me sauver? Si le Seigneur n'avait pas pardonné mes péchés, mais je serais où aujourd'hui? Mais je veux vous le dire, je serais très loin, mais très loin du Seigneur. Très loin du Seigneur. En tout cas, dans le péché jusqu'au cou, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais il m'a sauvé. Et je veux me réjouir de ce que j'ai cru en Dieu. De ce que vraiment, un jour, j'ai reçu ces choses-là dans mon cœur. Et ma prière, au fait, et je la repose, est-ce que c'est le cas de tout le monde ce soir? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est une occasion que Dieu te donne de faire la paix avec lui, de te réconcilier avec le Seigneur, de vraiment recevoir le salut, parce que c'est important. C'est pas, vous savez, le Seigneur, c'est pas un camelot, là. Il nous propose pas, allez, on va faire des soldes ce soir, allez, moins de 10%, moi, tu seras sauvé. Non, non, mais c'est sérieux, hein. Parce que quand même, il a fallu que Jésus paie le prix fort à la croix. Il a quand même fallu que son sang soit versé. Moi, j'ai encore un souvenir, là, le message de Albert sur le sang de Jésus. Ça m'a marqué ce qu'il a prêché. Quand on réalise le sang que Jésus a versé pour qu'on soit pardonné de nos péchés, quand on réalise le prix payé, mais je veux, Seigneur, je veux pas perdre cette joie d'être sauvé. Je m'y habituer, c'est comme ça. Ouais, je suis sauvé. Puis on chante des cantiques. Hein. Je suis heureux, Jésus m'a sauvé. Ah bon, mais ça se voit pas trop. Hein. Mais alors je dis pas qu'il faut être toujours la banane, mais Seigneur, tu m'as sauvé parce que l'éternité avec Dieu. Je ne sais pas si vous y réfléchissez, l'éternité avec Dieu. Moi, ça ne rentre pas dans ma tête, je n'y arrive pas. Mais je me dis, mais Seigneur, aide-nous, quoi. La joie d'être sauvé. Alors, je ne veux pas être long, je termine, mais pour la plupart, je ne vous ai rien appris ce soir, mais peut-être c'est bon de réaliser comme toi à nouveau ces choses. Seigneur, tu m'as sauvé. Quand je réalise le prix payé, on le chante, merci pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Mais je me dis, mais Seigneur, je ne veux pas perdre cette joie d'être sauvé. Et si peut-être ce soir, quelqu'un n'a pas encore fait cette expérience, mais c'est l'occasion, j'en reparlerai demain après-midi, c'est l'occasion que Dieu nous donne. D'ailleurs, je voudrais qu'on termine par ce passage des textes que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, versets 18 et 19. Il y a cette parole que j'aime beaucoup. Je prends juste ce qui m'intéresse. Hein. Bon, bien sûr, il est impossible que Dieu mente, alléluia. Et il nous a dit ceci... La deuxième partie du verset, il dit « Nous dont le seul refuge, et c'est de nous dont il est question là, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Et déjà, regardez, il y a quelque chose d'important là. L'espérance, elle est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre espérance, le salut qui nous était proposé. Mais notez bien qu'il nous était proposé, pas imposé. Pas imposé, parce que le Seigneur ne nous imposera jamais rien. Seigneur n'imposera rien. Si ce soir on ne veut pas, si ce soir on dit non, moi ça ne m'intéresse pas, si je n'ai pas envie, Seigneur ne s'imposera pas. C'est pour ça qu'il dit, si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il ne s'imposera pas, il ne va pas défoncer la porte. L'ennemi de ton âme, lui, le diable, lui, ne te demandera pas ton avis. Il ne te demandera pas ton avis. Il y a tellement de gens qui sont liés, tenus par tout un tas de trucs, tout un tas de choses, ils n'arrivent pas à se dépatouiller et croyez-moi, on ne leur a pas demandé leur avis. Mais le Seigneur, lui, il ne s'impose jamais. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. On l'a saisie et ce soir encore, elle nous est proposée si ce n'est pas fait. Et regardez, verset 19, la suite. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Alléluia, elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance, nous la possédons comme une encre. Et vous savez ce que c'est une encre, hein ? Moi, je suis pas de la partie, je ne suis pas marin, mais on sait que l'encre, c'est ce qui tient à tenir le bateau stable. Hein, quand il est à l'arrêt, malgré les tempêtes, hein, etc. Hein, mais c'est ce qui va nous tenir stable, même dans les tempêtes les plus difficiles. Mais cette espérance à laquelle est attachée une grande rémunération, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette espérance qui est notre joie, qui est notre salut, mais elle est comme une encre de l'âme. Voyez, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a une stabilité. Des fois, les gens vous disent, mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Vous savez, je vais me le permettre. Je pourrais dire, comment il fait Guy pour être là ? Comment il fait ? Jérémy ? Comment il fait ? Comment tu fais ? Et combien de fois j'entends ça ? Mais comment tu fais ? Mais t'as vu avec tout ce que... Comment tu... Mais c'est spirituel, c'est glorieux, ça ne s'explique pas. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. C'est là et ça nous tient debout. C'est vrai que ça secoue, c'est vrai qu'on n'est pas on est des humains, on a nos émotions, mais il y a cette encre de l'âme qui est là. Et ça nous tient, voyez, ça nous tient debout jusqu'au bout, que le Seigneur nous prenne ou qu'on passe par la mort. Mais il y a cette espérance. Et moi, je veux me réjouir de ça. Je veux me réjouir de ça. Je ne veux pas le perdre. Et ce soir, je voudrais vraiment nous encourager. Ne perdons pas la joie de notre salut. N'oublions pas d'où Jésus nous a tirés, ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons relevés, restaurés, pardonnés, pour que nous puissions nous présenter devant Dieu, parce qu'un jour, on va se présenter devant Dieu. Et quelque part, on peut se présenter devant Dieu qu'à cause du sang de Jésus. Et je me dis, mais je veux me réjouir de ça. Je veux me réjouir de ça. Oui. Je veux réaliser la grâce et le privilège. Je ne veux pas me laisser voler. Si peut-être ce soir, moi je ne sais pas, si peut-être le diable t'accuse, hein, s'il vient te titiller un peu pour te dire, regarde, c'est bien beau, mais c'est bien beau tout ce qu'il raconte là ce soir. Hein, c'est bien, il est gentil, hein, mais t'as vu ça? T'as vu ça? Et regarde là, et regarde ça, et regarde ce que tu vis, regarde ce que tu traverses, tu as vu tout ça? Vous savez quand ça se passe comme ça? Hein, c'est pas de moi, hein, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Hein, quand le diable est en train de te titiller là avec ton présent, avec ton passé, parle-lui de son avenir. Parle-lui de son avenir, parce que la Bible nous en parle dans le livre de l'Apocalypse, de l'avenir du diable. D'ailleurs, on l'a lu la semaine dernière, Apocalypse 20. L'avenir du diable, c'est dans les temps de feu et de soufre. Hein, c'est là où il va terminer. Donc, parlez-lui de ça. Vous allez voir, il va vite s'arrêter. Hein. Il va vite s'arrêter. Mais nous, notre espérance, elle n'est pas là. Notre espérance, elle est au ciel. Alors, je voudrais que ça, vraiment, ce soir, ça puisse les uns et les autres vraiment nous fortifier. Et puis ce soir, si peut-être on n'a pas fait cette expérience, mais c'est l'occasion. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Ce soir, que tu saisisses le salut qui t'est proposé, pas imposé. Si on ne veut pas, tu n'en veux pas. Mais ce serait tellement dommage. Ça serait tellement dommage. Quant à nous, les croyants, mais bénissons Dieu. Seigneur, tu m'as sauvé. Je ne comprends pas tout avec mon petit cerveau. Mais Seigneur, je réalise que je passerai l'éternité avec toi. Et ça, mes amis, cet héritage-là, quand on voit les batailles qu'il y a pour les héritages aujourd'hui, l'héritage du ciel, ça vaut tous les autres. Hein. Alors Seigneur, je veux te bénir pour cela. Alléluia. Seigneur, encore.